de viande 32 sur l'échelle de Richter. La troisième oreille, vacuum.
Les gens de panique.
La voix des Assyriens.
Naïl Betkin.
شمع شمع ثم يقرب بريخ طهره كشمعيت لي تحرسته تقوله تصوره كل يوم تحاث بشابه مش حثو حذوه لتلو ثطهره على الفرسقونه تبانيك مو حمشه نقزو أربو اف ام اي تحرسته كم فروسه بوليش ونو فرانشويه وصوره وكو حبشه ملوساقيه وحرطه مجاب السياسيه كله اي كان صوره وفلو صوره ونيش اذا هانو يدمود علو عميدا ولا بلجيكو اي كان يوثو يومونيتو ومكتب زبنو واي مردوثو دو عميدا ودنطرو لزت قينو شوي وهي يوثو ودما عيشو لوليشون ولي مردوثو ديلونو يذبوثر دنبوثو اوثر او كيد بيث نهرين اعيليتو موقعك منك تلانس نيقوثو لعادرو نثخن وكم يقرين الكل الروحومة دوليشون ودي مردوثو اف ديورتوثو على عادرو ندثي عادرو نثخن إلانساقي وصوين لشان تقدرين ادم شوشطين ابو فلحون ايذان وكوبيلان حيلو لشان دماسين ادم كملين بحفي توثيذان وسيمين تحرسيوثو شافر وباسم لوخو شموعي رحيمي Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Vous écoutez tous les dimanches l'émission La Voix des Assyriens de 13h à 15h sur les ondes de Radio Panique 105.4 FM. L'émission animée en syriaque et en français est pluraliste et indépendante de toute partie politique assyrien ou non assyrienne. Notre but est ceci, d'informer l'opinion publique belge, européenne et la communauté internationale sur l'actualité, l'histoire et la culture du peuple assyrien. Défendre les droits de l'homme, particulièrement en Assyrie ou Haute-Mésopotamie. Défendre l'identité assyrienne dans le respect de l'identité et des droits des autres peuples en relation avec les Assyriens dans la région d'origine ou ailleurs dans le monde. Notez bien, nous sommes à votre disposition et attendons vos suggestions, propositions ou remarques. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Émission La Voix des Assyriens, Radio Panique. Place d'Aï, numéro 4, 1030 Bruxelles. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 732 04 50 pendant l'émission.
Des sous de création.
Chapitre 47. Les réserves du fonds d'aide. Carte rouge pour la ministre-présidente Onkelinx.
La commission du fonds d'aide ne dépense pas forcément l'ensemble de son enveloppe budgétaire. Des réserves sont ainsi constituées.
Juste un mot là-dessus, il y avait des réserves parce que les projets qui arrivaient ne justifiaient pas que tout soit dépensé. Nous avons considéré que implicitement, je dirais presque, enfin dans la discussion collective, que le fonds n'allait pas au-delà d'un certain montant dans ses aides, sauf vraiment cas rarissime. Nous avons considéré que nous ne financions pas l'intégralité des budgets des productions qui nous étaient proposées, nous ne financions que certains postes, et pas toujours complètement, et que nous financions en fait très souvent des productions quasi bénévoles, et non pas professionnelles. Si l'on veut utiliser ce fonds pour créer de la production, de la création et de la production radiophonique ou sonore audiovisuelle, professionnelle, comme c'est le cas à la commission de sélection du film, nous n'avons pas les budgets nécessaires. Donc, je dirais, nous avons vécu une situation d'équilibre tacite entre le milieu concerné qui a accepté l'infra-économie, la non-économie, comme je pense beaucoup de radios associatives vivent la non-économie.
Nous ne voulions pas déraper dans une économie artificielle de cette production. C'est-à-dire que à partir du moment où on examine un projet qui nous arrive avec un devis raisonnable, hein, même s'il y a une petite marge pour payer un peu le studio ou un peu payer des bandes ou payer pas le matériel proprement dit, hein, ça on a toujours écarté dès le départ, mais des frais liés inhérents à une production, et que disons il s'agit d'une heure de production documentaire et qu'elle vaut, évaluée de façon raisonnable en regard du projet, que c'est un projet moyen, 150 000 francs. Il paraît inacceptable au projet suivant, simplement parce qu'il vient d'un autre lieu, de dire que le même type de production, le même type de démarche créative recevrait 350 000. Et donc, à partir du moment où des professionnels ou des gens qui avaient quand même une certaine connaissance du milieu arrivaient à la conclusion que l'heure moyenne de production de documentaire ou de fiction se trouvait à un certain niveau, ben, on a appliqué grosso modo ces références, tout en sachant que certains projets nécessitaient plus et beaucoup plus, ou moins et beaucoup moins. Mais on avait quand même, je dirais, des ordres de grandeur. Et ces ordres de grandeur en regard de la réalité des projets qui arrivaient a fait que nous ne dépensions pas tout l'argent. Maintenant, évidemment, on aurait pu monter la barre un peu et dire on laisse du mou. On laisse du mou pour irriguer les milieux, etc. Mais il y avait une forme. Enfin, on a toujours travaillé avec une forme de conscience professionnelle de gérer les deniers publics, les deniers de la collectivité. Et. À partir du moment aussi où très rapidement la plupart des projets, enfin un nombre significatif de projets, émanaient des mêmes cellules de production, où on sentait bien qu'elles venaient du même groupe de personnes, un dispositif qui aurait créé, qui aurait admis des espèces de marges injustifiées, devenait encore moins justifiable.
Cette pratique des réserves s'avère finalement calamiteuse, puisque la ministre Anne Collings, en février 1999, très peu de temps avant la fin de son mandat, passant outre à un avis négatif de son Conseil supérieur de l'audiovisuel, y puise 160 000 euros pour financer l'installation matérielle des émissions internationales de la RTBF, en toute infraction par rapport à l'esprit et à la lettre du fonds d'aide.
Nous avions, je crois, géré dans l'économie, dans un souci d'économie, ce qui a produit des réserves dans le fonds, ce qui est un comportement à bannir dès lors qu'on est dans le secteur culturel de la communauté française. Ne faites jamais des réserves. Dépensez toujours tout l'argent qu'on vous donne dans les commissions auxquelles vous pourriez participer. C'est une aberration totale, parce que dès qu'il y a de l'argent disponible, évidemment, les besoins sont tels à la communauté française qu'ils sont immédiatement captés pour d'autres fins. Et nous avons été en fureur d'apprendre, je le dis simplement, sous Madame Collings, on en parlait il y a un instant avec la présidente, les réserves, une partie des réserves qui avaient été consacrées, qui avaient été constituées par le fonds pour développer sa politique, avaient été détournées, j'emploie le mot parce que je pense que c'était illégal en plus, avaient été détournées pour financer des diffusions vers l'étranger de la RTBF.
Les sociétés d'auteurs, SACD et SCAM, orchestrent la protestation et font circuler des pétitions.
Nous demandons d'une part que l'intégralité des modestes ressources provenant du dispositif Décrétal soit affectée exclusivement à la création radiophonique, soit par le biais du fonds d'aide à la création, soit par celui de structures d'accueil reconnues à cette fin. D'autre part, que les radios associatives d'expression et de création, qui ont permis de nombreuses réalisations de création radiophonique, soient soutenues par un budget spécifique.
Fait unique, les membres de la commission du fonds d'aide adressent en mai 1999 une lettre au ministre de la Communauté française pour leur expliquer que l'arrêté pris par Madame Anne Collings entrave la poursuite de leur mission et menace de démissionner. Le changement de gouvernement désamorce opportunément le conflit. Corinne de Permentier, la nouvelle ministre, déclare ne pas vouloir répéter la funeste opération, mais l'arrêté n'est pas aboli.
Francis Dujardin, secrétaire du Fonds d'aide à la création radiophonique.
En ce qui concerne les réserves, là, on parlait Frédéric, il a peut-être oublié de mentionner que récemment, donc, le ministre de l'audiovisuel a reconnu l'atelier création sonore et radiophonie. Donc c'est une subvention de 2 millions par an. C'est pour ça que nous sommes prudents en termes de réserves, parce que nous savons qu'elles ne sont pas inépuisables et que donc on a fait une planification pour 3 ans, et cette planification tient compte effectivement de tous les besoins. Et donc si nous dépensions tout maintenant, il est clair qu'en 2002 par exemple, nous n'aurions pourrions plus faire face notamment à la reconnaissance de l'atelier. Donc en l'absence de la contribution des réseaux, pour l'instant on est vraiment obligé de tenir ce type de politique. Ce n'est pas certainement pas pour que l'argent ne soit pas dépensé.
Mais je crois qu'il est urgent de faire contribuer les réseaux. Ça, c'est une chose, parce que quelle que soit la complexité de la situation juridique, le législateur en fait a voulu que les réseaux contribuent. Je pense qu'ils sont en état de le faire, et il faut trouver la formule juridique pour faire contribuer les réseaux.
Pourquoi avez-vous si mal subventionné les projets des radios les premières années ? Vous avez été loin de dépenser l'enveloppe budgétaire qui vous était attribuée, et vous avez fait des réserves. Pourquoi avez-vous fait des réserves ? Était-ce en prévision d'une époque ultérieure où émergerait un type de création qui vous agréerait mieux que celle qui vous était proposée?
Non, je crois pas. Moi, j'ai le sentiment que quand on a commencé à recevoir des projets à la commission, on a d'abord cherché à soutenir des écritures radiophoniques. C'est-à-dire tenter d'identifier, comme dans le secteur du cinéma ou dans le secteur du théâtre, des gens, des personnes, des talents qui portaient un projet intéressant, novateur, personnel, riche, au plan de l'écriture radiophonique. Donc il n'y a pas eu de démarche délibérée pour constituer une réserve pour un futur projet, ça c'était pas le cas. Enfin, je n'ai pas le souvenir de ça. Par contre, à partir du moment où le projet d'atelier de création radiophonique a mûri et qu'il restait du disponible dans le fonds de création, là, on a identifié une source possible de financement.
Et que personne ne l'oublie.
Ne faites jamais des réserves. Dépensez toujours tout l'argent qu'on vous donne.